Chers auditeurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangu. Aujourd'hui, nous allons parler de la contribution des leaders religieux dans la lutte contre l'insécurité au Niger. Ces 10 dernières années, le Niger, tout comme plusieurs autres pays de la sous-région, est affecté par une récurrence du banditisme armé et l'extrémisme violent. Au Niger, cette recrudescence d'attaques des groupes armés non étatiques touche plus particulièrement les régions du Tillabéri, dite zone des trois frontières, Tawa, frontalière avec le Mali et Difa. Des phénomènes qui constituent un frein au développement socio-économique des États et une menace grave à la paix dans un contexte déjà marqué par d'immenses défis de développement. Dans cette émission, nous verrons tout d'abord comment les leaders religieux, musulmans et chrétiens perçoivent la situation sécuritaire au Niger. Ensuite, nous parlerons de leurs actions pour la promotion de la paix et la cohésion sociale au Niger dans le cadre de la lutte contre cette insécurité. Pour en débattre, nous recevons comme invité Cheikh Baham Aboubakar, leader musulman, président national du comité de dialogue inter- et intra-religieux CEDIR, et Père Jean-Baptiste Kafando, leader chrétien, également membre du comité de dialogue inter- et intra-religieux CEDIR. Bonsoir et bienvenue au studio Kalangu, chers invités. À la modération de ce forum, je suis Michel Béchier. Une fois de plus, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour ce forum du studio Kalangu. Tout d'abord, chers invités, avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous comment se porte le dialogue inter- et intra-religieux au Niger. Monsieur le président du comité de dialogue inter- et intra-religieux, CEDIR, Cheikh Baham Aboubakar.
Merci Michel Deji, merci aux auditeurs de Studio Kalangu et de ses radios partenaires. Et merci à toute l'équipe pour cet effort que vous ne cessez de déployer au service de la paix. Le dialogue interreligieux porté par le CEDIR est une activité permanente de tous les jours que mène les différentes associations, les différents groupes religieux islamo-chrétiens, les différentes mosquées et églises sur l'ensemble du pays, de la mesure où le CEDIR est une structure nationale, c'est une association nationale et qui s'est déployée dans les 8 régions, avec des coordinations dans les 8 régions, et avec des structures et dans 129 communes de notre pays. Et le dialogue 2021, peut-on dire, se porte à merveille dans la mesure où on est loin des années antérieures où le simple fait de réunir, par exemple, musulmans et chrétiens dans une salle était très difficile, relevé presque de l'impossible. Aujourd'hui, les gens se côtoient, les gens se fréquentent, les gens travaillent côte à côte et main dans la main au service de la paix à travers le dialogue. Nous venons d'achever un forum au niveau du stade général Sani Kounté auquel les 8 régions étaient présentes à travers ces leaders chrétiens et musulmans, où on a vraiment discuté pendant 2 jours de la manière de booster, si je peux dire, les activités du CEDIR, son partenariat avec un certain nombre de partenaires intéressés pour l'année 2022. Pratiquement, sur le plan d'action du CEDIR et de ses stratégies d'action, donc qui nous a réunis.
Ça veut dire que vous avez plusieurs actions, mais est-ce que les populations adhèrent à oui. vos activités, à votre vision de faire la promotion, de se vivre ensemble à travers votre structure, le CEDIR?
Oui, effectivement. En tout cas, partout où on a eu le temps d'expliquer, vraiment, on a les adhésions tout de suite. car ce qu'on dit, c'est quelque chose qui est évident, qui est déjà présente dans la culture nigérienne, à savoir cette volonté d'être ensemble, cette volonté de vivre côte à côte, dans la différence de nos cultures, de nos traditions, de nos religions, mais de vivre vraiment dans l'harmonie, dans la paix. Donc, le Cédir ne dit pas autre chose. Le discours du Cédir va dans le même sens. Donc, vraiment, partout où c'est expliqué, on n'a pas beaucoup de difficultés à nous faire comprendre, à nous faire apprécier ce qu'il y a. Et il y a quelques ignorances au niveau de chaque, tout un chacun par rapport à sa propre religion souvent et par rapport à la religion de l'autre. Donc le Cédir a pour mission justement de gommer ces ignorances-là, en tout cas d'aider à enlever ces blocages-là, ces barrières-là pour que vraiment les gens puissent se retrouver en frère, en ami et en citoyen tout simplement, qui collabore, comme le dit d'ailleurs beaucoup de versets du Saint-Coran et de la Bible. Le Coran dit « La yanhakum Allahu 'ani allatheena lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim », c'est-à-dire que Dieu ne vous empêche pas, vous musulmans, d'être en bon terme avec des gens qui ne vous ont rien fait de mal, de vivre avec eux harmonieusement, de collaborer avec eux, de commercer avec eux, d'être en amitié avec eux, d'améliorer chaque jour sans cesse vos relations avec ces personnes-là. Donc c'est ce que dit ce verset-là. Donc vraiment, c'est très clair.
C'est donc une recommandation de l'islam, faire cette promotion du vivre ensemble.
Oui, de vivre ensemble.
Bien compris. Père Jean-Baptiste Kafando, que dit la Bible par rapport à cette promotion du vivre ensemble et pourquoi est-il important de faire la promotion de ce dialogue intra et interreligieux au Niger?
Justement, je dis la Bible est un chant d'amour qui nous met ensemble, qui fait que nous puissions être ensemble. Et la Bible, dans la bouche de Jésus même, c'est de dire on est tous frères et sœurs, puisque Dieu est Père qui accueille et qui nous regarde comme ses enfants. Et en nous créant et en nous donnant la capacité de parler, Dieu nous permet déjà et nous lance déjà dans le dialogue. Et on le voit, tous les animaux ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Seul à l'homme, Dieu a donné cette capacité de parler. C'est pour justement qu'il manifeste ce dialogue. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Je vous apporte un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Et il ne dit pas, aime ton frère, aime ton papa seulement. Aime celui, aimez-vous les uns les autres. Et il est allé jusqu'à dire, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, cela pour dire, même s'il est contre toi, toi tu n'as pas le droit de ramener. Et autre chose, si on te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Tout cela pour dire, ne réponds pas le mal par le mal, réponds au mal par le bien. C'est ce que Dieu veut. Dieu nous apporte à aller ensemble. Et justement, quand nous regardons la Bible et le Coran, ils prônent tous les deux cela, l'amour. Parce que celui qui est à l'origine et de la Bible et du Coran est un homme de paix, un homme d'amour qui nous appelle à le chercher, à le trouver et à le suivre. Et pour cela, c'est l'amour qui nous aide. Et je citerai encore Saint Jacques qui dit, Dieu que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'aimer au-delà du frère que tu vois. Et il dit même, tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton frère. Si tu fais ça, tu es un menteur. Donc, il faut d'abord aimer ton frère que tu vois. Et ensemble, vous allez aimer Dieu que vous ne voyez pas.
Ça veut dire qu'il est important de faire la promotion de ce dialogue intra-religieux.
Exactement. Tout à fait.
Père, on parle aussi de l'extrémisme violent. Quand on parle de l'extrémisme violent, pour vous, qu'est-ce que ça signifie?
L'extrémisme violent, c'est d'abord le refus de la tolérance. C'est l'affirmation d'avoir la vérité absolue. C'est l'affirmation, le refus de refuser tout ce qui est penser autre, tout ce qui est mettre ensemble. Parce que Dieu ne nous a pas créés en absolutisant un seul aspect. Non, il nous a créés différents, mais complémentaires. Et même quand on regarde le corps de l'homme que Dieu a créé, rien n'est absolument identique. Ce que Dieu nous a créé en double n'est pas identique. Regardez nos mains, nos doigts plutôt. Ils sont différentes tailles, différentes longueurs pour permettre l'harmonie, pour permettre le faire ensemble. L'extrémisme, c'est de refuser cela, de refuser l'acceptation de l'autre. Alors, il peut être à tous les niveaux, comme je l'ai dit au début. Même les supporters de football peuvent être tellement extrémistes sur leur club ou sur leur pays qu'ils refusent toute autre chose. Tout ce qui est extrémiste est mauvais. Et dans le sens de la religion, l'extrémisme violent est absolutisé ta religion. Or, Dieu n'a rien absolutisé. Voilà pourquoi, même dans la même religion, il y a plusieurs prophètes qui sont venus et puis qui ont souvent, selon les époques, donné un message de Dieu qui est le même, mais qui est donné de manière différente. Voilà. Alors, tout ce qui est donc extrémisme, il faut lutter contre. Et le travail, notre travail en tant que leader religieux, justement, c'est d'appeler à la tolérance, d'appeler à l'acceptation de l'autre, d'appeler à nous baser sur les sujets qui nous mettent ensemble. Par exemple, l'amour, ça nous met ensemble. La tolérance, ça nous met ensemble. Maintenant, comment un tel pan étant, ça peut être différent, mais l'idée, c'est de travailler sur ce qui est chaud et de lutter contre justement cet intégrisme ou cette intolérance qui nous amène aux divisions et souvent même à des actions qu'on ne comprend pas. Et des revendications qu'on n'exprime pas, parce que soi-même on ne les connaît pas. Il faut aller faire ça, et tu fais. Ça, c'est très très mal. Voilà pourquoi, dans la foi chrétienne, Dieu veut notre collaboration. Il peut tout faire. Dieu, il a créé le monde par sa parole. Il peut tout faire par sa parole, mais il veut notre collaboration. Voilà pourquoi il nous donne le livre saint, pour que nous puissions y trouver les commandements qu'il a donnés et librement suivre ses commandements pour le trouver.
Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste Kafando, Cheikh Abraham Aboubakar, leader musulman, président national du comité de dialogue inter- et intra-religieux, CEDIR. C'est un concept que vous connaissez également. L'extrémisme violent, on en parle un peu partout, mais vous, quelle est votre lecture de ce concept et comment vous le trouvez, comment on peut lutter contre?
Évidemment, je veux juste abonder dans le sens de Père Jean-Baptiste pour dire que l'extrémisme violent, c'est le refus de l'harmonie, comme il l'a dit, et des règles établies. Je dirais que c'est la grande maladie de notre ère. L'expression extrémisme violent ne parle pas exclusivement
de la religion.
De la religion. On trouve de l'extrémisme violent dans nos stades, par exemple, dans nos arènes politiques, dans la cohabitation au quotidien entre voisins, dans les quartiers, dans les villages, dans les champs, dans le marché, etc. Donc, c'est le dépassement de la raison, c'est le refus de chercher des voies, des solutions pacifiques à un problème. Donc, voilà, cela peut être fait à dessein, parce que la personne pense que c'est seulement par cette violence qu'elle pourrait atteindre son objectif, qui sont parfois des objectifs criminels. Et donc, le fait de venir, par exemple, terroriser tout un village, ramasser le bétail, tuer quelques notabilités et partir. Moi, je trouve qu'il n'y a pas un autre nom pour expliquer cela que de l'extrémisme violent, qui est un acte de ce point de vue très criminel. Donc, c'est quelque chose que l'islam condamne. Tu dois aimer ton frère, comme l'a dit Père. Il faut aimer tout le monde. Il faut aimer vraiment son frère. Il ne faut pas verser la corruption, le mal sur la terre. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, Dieu dit que il a placé sur la terre l'être humain comme vicaire, comme représentant de Dieu. Comment L'être humain peut être un représentant de Dieu, c'est-à-dire en répandant l'amour du prochain, en répandant sur la terre la paix, l'harmonie, en respectant les lois divines qui régissent cet univers. Ne pas faire du mal à son voisin, ne pas faire du mal à l'animal qui passe, à l'insecte, ne pas détruire la nature. Donc vraiment être quelqu'un de bien, être loin de tout mal. Donc voilà de ce point de vue ce que doit être la mission de chaque être humain, non de détruire ce que Dieu a construit.
L'extrémisme violent conduit donc au conflit et à l'insécurité. Mais quels sont les autres facteurs qui favorisent cette insécurité, Cheikh Ibrahim?
J'ai dit tout à l'heure que ça peut être abus criminel, comme des gens de vol, etc., des gens qui viennent voler. Ça peut être aussi abus religieux, pour ceux qui disent qu'ils font du djihad. Donc, de ce point de vue aussi, ils ont mal compris. Le djihad ne se fait pas aux dépens des autres. Le djihad, du point de vue de l'islam, il y a deux sortes de djihad. Il y a le grand djihad et le petit djihad. Le petit djihad, justement, c'est le djihad armé. Le messager d'Allah a dit à ses compagnons, au retour d'une guerre, ben maintenant nous revenons du petit djihad. On lui a dit, mais c'est quoi donc le grand djihad? Alors que dans cette guerre, il y a eu des blessés et même des morts, un mort parmi nous. Il a dit non, le grand djihad, c'est le djihad nafs, c'est-à-dire la lutte contre ses propres penchants. Contre nos propres maux, contre nos propres démons. Il faut lutter contre ses propres démons. C'est ça le grand djihad. Donc le grand djihad, c'est fait contre soi-même. Il faut s'empêcher de faire du mal. Il faut s'empêcher toutes les passions négatives. Donc c'est ça le grand djihad. Donc ces gens-là qui pensent faire du djihad, ou bien qui mettent prétendument le djihad au devant de la scène pour commettre leur forfaiture, ces gens-là, ils sont en porte-à-faux avec les textes de l'islam, car le djihad s'est fait d'une façon réglementée. Comment ça s'est fait le djihad? Et par exemple, quand un détachement de l'armée du prophète, je parle du temps du prophète, où il y a le djihad, aujourd'hui le djihad, tu peux le faire dans la charité. Tout simplement, en allant voir les orphelins, les nourrir, les éduquer. C'est ça le djihad aujourd'hui. En allant faire du bien à la population où on est situé. C'est ça. Ou bien aller faire du volontariat. Tout ça, c'est du djihad. Pas aller faire du mal. Donc, du temps du messager d'Allah, où vraiment le djihad s'imposait, et quand il envoyait un détachement dans une cité, dans une bourgade, ce détachement militaire, il leur disait très clairement, ne pénétrez jamais directement dans une cité, dans un village. Les gens, il leur dit, vous campez à distance de ce village-là. Et vous attendez l'heure de la prière, vous tendez l'oreille. Si vous entendez, au moment de la prière, qu'il y a l'appel du muezzin qui émane de ce village, il vous sera interdit de pénétrer avec vos armes dans cette cité. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, si au deuxième ou au troisième appel, heure de prière, vous n'entendez aucun appel, là, vous pouvez entrer. Envoyez d'abord des gens pour aller discuter avec la population, pour leur dire, nous vous apportons la parole du prophète Mohammed Sassan, nous vous apportons l'islam. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, donc c'est un dialogue. Ce n'est pas une opposition. Mais les gens, il se peut qu'ils ont leur propre religion. Donc, s'ils ont une religion, vous discutez avec eux. L'islam imposait de discuter avec eux, de trouver un terrain d'entente. Donc, puisque c'est à l'époque des conquêtes, les musulmans considèrent comme s'ils ont conquis. Mais donc, nous, on va garder la ville. On va vous sécuriser. Et on va faire régner la loi. Et on vous laisse adorer, mener vos activités religieuses. Même si ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Si, au contraire, les gens disent non, mais en contrepartie, vous allez payer un impôt aux musulmans, qui même si vos propres ennemis venaient vous tuer, ce sont les musulmans qui allaient mourir. Donc, ils vont garantir votre sécurité. Donc, si les gens disent non, nous, on ne paye pas. Non seulement nous, on ne prend pas votre religion, mais aussi on ne paye pas d'impôts. Ah, mais c'est en ce moment seulement que la guerre s'impose. Mais là aussi, il faut s'entendre sur les termes de cette guerre. Quand ça va avoir lieu? Comment ça va avoir lieu? Avec quels moyens, etc. Donc, vous discutez tout ça là. S'ils disent que c'est dans un an qu'on va faire la guerre, vous allez évacuer la ville et allez vous préparer aussi, se prépare. Le temps de faire la guerre. Pendant tout ce temps, l'islam négocie pour qu'il n'y ait pas de guerre. Pendant tout ce temps-là, si c'est un an, le messager d'Allah a envoyé des gens pour dire non, ce n'est pas la peine de s'entretuer. On veut juste que vous acceptez la parole de Dieu. On veut juste que vous dites cela, voilà, voilà. On peut s'entendre, etc. Jusqu'au jour où les deux camps se font face, vous trouvez que le messager d'Allah il a envoyé des émissaires qui partaient, qui revenaient. Jusqu'à la dernière minute où vraiment les armes parlent, c'est toujours la négociation pour éviter cette tuerie, alors que donc, le dialogue pouvait tout régler. Donc vraiment, si c'est au nom du djihad que ces gens-là faisaient ça, c'est faux. Ce n'est pas du djihad, ce n'est pas du vrai djihad. On ne fait pas du djihad en terre d'islam. Même quand on n'est pas en terre d'islam, il y a des voies pour faire le djihad. Donc autre chose, parce que vous nous parlez de causes, selon notre vision, il y a aussi des causes politiques. Il y a aussi des causes politiques. Peut-être qu'il y a des forces politiques étrangères qui intervenaient. Puisque si vous regardez, c'est comme si l'épicentre de ce phénomène-là s'est déplacé du Moyen-Orient jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'à chez nous, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une influence extérieure quelque part. Donc ces influences extérieures, vraiment, aussi, doivent être... On doit chercher à trouver leur origine et essayer de discuter avec eux.
C'est une hypothèse que vous posez, puisqu'il n'y a pas les moyens de vérifier.
Oui. En tout cas, ces gens-là, ils se réclament de certaines idéologies dont on connaît.
Au niveau même des terroristes.
Oui, dont on connaît les foyers de ces idéologies. Mm-hmm. Donc, pourquoi ne pas discuter avec les tenants de ces, les leaders de ces idéologies
Merci.
Dont tout le monde connaît.
Merci beaucoup, Cheikh Abraham Aboubakar, Père Jean-Baptiste Kafando, leader chrétien. Membre également du CEDIR, est-ce que vous trouvez d'autres explications à ces phénomènes d'insécurité et de terrorisme grandissant dans cet espace sahélien?
On ne trouve rien, justement. Un des problèmes de ce phénomène, justement, c'est qu'il n'y a pas de plateau où on les écoute pour savoir leurs revendications, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils font ça. Il n'y a rien. On ne sait pas. Au départ, au tout début, on a dit, ah non, c'était les chrétiens qu'on attaque. Après, on a vu qu'ils attaquent des mosquées en prière. Et nous, on était scandalisés. On dit, mais c'est incompréhensible. Donc finalement, on ne sait pas. Et au début, c'est telle catégorie de personnes qui étaient menacées. Après, on a vu, non, c'est tout le monde qui est menacé. Et actuellement, ceux qui ont quitté leur village pour aller ailleurs, c'est et les chrétiens, et les musulmans, et les autochtones, et les étrangers qui sont sur ce village. Donc finalement, on ne sait pas. Donc maintenant, tout le monde va faire de la spéculation sur les causes qui nous amènent à ça. Voilà. Le problème est de trouver sans doute, mais nous aujourd'hui, c'est de faire appel à l'unité en tant que leader religieux, c'est d'être nous-mêmes, avoir un comportement de paix, un comportement qui dénonce ces attitudes-là. Et ce comportement ne peut que venir dans notre religion. Moi, je répète ça à toutes les fois, c'est de la connaissance de notre religion. Si on connaît la religion, si je connais bien ma religion, je peux très bien discuter clairement avec un autre qui lui aussi connaît bien sa religion. Alors, une des causes, peut-être, je peux le dire, c'est l'ignorance. On ignore notre religion et on veut pratiquer la religion par ouï-dire. Par exemple, Cheikh vient d'expliquer la charia. Mais combien sont ceux qui comprennent ce que c'est que la charia de cette façon ? On ne le connaît pas. Voilà. Donc, et on ne cherche pas à connaître. Donc, nous, c'est de lutter contre l'ignorance. Chacun de son côté, de parler de sa religion. Tout à l'heure, je disais, les sujets qui nous divisent sont très peu. Hein. Les religions, les sujets qui nous divisent sont très peu.
Ça et à y chercher. Il y a plus de points qui unissent.
Il y a plus de points communs qui unissent plutôt que de points qui divisent. Et je dis, c'est un comportement. Et tout à l'heure, je disais. Le père Luki qui a été enlevé 2 ans, Makali, qui a vécu 2 ans avec eux, qui a été libéré.
Qui avait été donc pris en otage.
Pris en otage.
Dans la zone de
Makalandi, à Bomanga. Il a écrit un livre qui va sortir. Et ce qui est frappant dans ce livre, et avant même ce livre, tout ce qu'il écrit, toutes ses interventions, il n'a jamais utilisé un mot dur, ni insulte, ni de condamnation, et ni de malédiction envers ceux qui l'ont attrapé. Jamais.
Le père Makali avait été libéré.
Il a été libéré.
À Bamako, c'était avec notamment l'opposant Soumaïla Cissé qui est décédé par la suite.
Exactement. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne parle pas de ses ravisseurs en très mauvais termes. C'est ça le comportement que nous devons avoir, de pouvoir regarder l'autre avec amour. Et ça, c'est une obligation que Dieu nous donne, de nous regarder, de nous aimer dans la différence. Ce qui m'a d'abord frappé dans ce message, avant de le lire et de le parcourir, c'est la façon dont il parle de ses ravisseurs, en de très aimables, des propos aimables. Pas d'insultes.
Mais
pas de
qu'il
mauvais
a dit
mots
qu'on l'a fait souffrir, qu'il a été
il ne dira pas ça.
Agressé.
Non, il ne vous parle pas de ça. Mmh. Il parle plutôt de son expérience dans tout ça. Et ensuite, en fait, ce que je veux soulever, c'est exactement l'attitude qu'a eue le Christ sur la croix. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on est en train de le transpercer, pardonne-leur. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. C'est difficile, mais c'est comme ça. Alors, il y a des villages qui souffrent beaucoup, beaucoup de cette situation, mais c'est d'avoir ce comportement-là de paix. Et ça, c'est le rôle que les leaders doivent porter.
Parlons donc à présent de vos actions et contributions visant à promouvoir la paix et la cohésion sociale et à lutter contre cette insécurité au Niger. Cheikh Brahma Boubacar, leader musulman, président national du comité de dialogue inter- et intra-religieux, CEDIR, quelles sont ces actions envers quelles cibles vous les menez?
Le CEDIR, CEDIR Niger, est une association nationale qui a été composée par d'autres associations musulmanes et chrétiennes, par des églises, par des mosquées, par des leaders religieux à travers tout le pays. Et le bureau national a été mis en place avec 5 représentants de chaque région, 2 chrétiens et 3 musulmans qui sont tous des leaders religieux. Donc, c'est des églises et des mosquées et des groupements religieux qui sont déjà sur le terrain, qui composent le CEDIR. Donc, il va de soi que ces structures continuent leurs actions traditionnelles sur le terrain à la lumière de l'actualité, à la lumière des besoins de l'actualité. Donc, le CEDIR en tant que tel n'a pas ses propres ressources, n'a pas ses propres moyens, mais le CEDIR est là pour organiser, pour coordonner ces actions-là et surtout pour animer et instaurer un dialogue fructueux entre ces différentes parties. J'ai parlé tout à l'heure d'église, de mosquée. C'est-à-dire que chacun prêche déjà dans son église, comme on dit. Chacun prêche dans son espace. Chacun fait un certain nombre d'actions. Mais le CEDIR aussi réunit ces gens-là de différentes tendances de temps en temps pour faire des sessions de dialogue, pour faire des formations, pour aller à indiquer ce nombre de voies permettant vraiment de ramener la paix. Par exemple, nous travaillons en synergie avec de partenaires tels que la HACP, et la médiature,
voilà, la consolidation de la paix,
la médiature, le CRS, etc. SOS, Civis, etc. Donc, avec lesquels vraiment on arrive souvent à trouver les moyens pour faire des rencontres très, très fructueuses, très importantes. Par exemple, il y a 2-3 jours, on venait de finir une grande rencontre au niveau du stade avec les 8 régions du Niger qui étaient présentes pour mettre en place une plateforme de financement pour le CEDIR pour l'année 2022. Donc, dans ce programme, l'insécurité se trouve au cœur de ces préoccupations-là. Donc, il y aura un certain nombre d'actions qui vont permettre vraiment au CEDIR de travailler en profondeur sur ces questions d'insécurité. Donc, il y a des actions qui se font aussi dans les médias, télé, dans les radios, mais aussi dans les réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste Kafando. Faites-vous aussi des sensibilisations au niveau des églises pour contribuer à la lutte contre l'insécurité dans le pays?
Oui, je voudrais d'abord compléter ce que Cheikh a dit. L'idée, ce n'est pas d'abord de faire les prêches et les sensibilisations, mais c'est de créer les cadres de rencontres et du dialogue.
Le voilà. Fait de se réunir, le c'est déjà réunir, quelque chose.
Voilà. Je prends l'exemple, on a eu une réunion il n'y a pas longtemps à Bangoula, où il y avait les leaders religieux de tout le pays, toutes les régions, et nous avons discuté sur deux points essentiels. Et on était très heureux, on a fait 3 jours ensemble, très heureux d'être ensemble. Et ceux qui étaient là, les leaders qui étaient là, qui ont chacun son lieu de culte et qui prêchent, ne vont plus prêcher de la même façon qu'ils prêchaient avant. Le regard avec le chrétien, le regard avec le musulman va changer suite à ce qui a été formé. Il y a des choses que le musulman est venu, il a dit, le chrétien, il a dit, et puis tu entends la réaction, mais c'est la même chose. C'est la même chose. On trouve des valeurs, et c'est sur ces valeurs-là qu'il faut bâtir. Et cela va aider à ce que les prêches évoluent dans le sens du mettre ensemble. Pour le moment, ça reste beaucoup. Mais bon, c'est petit à petit. On ne peut pas dire qu'on est au même niveau qu'il y a 2002 où le CEDIR commençait. On a avancé et nos rapports même ont évolué. On peut même, ça c'est déjà pas mal. Et maintenant, dans nos églises, c'est d'aider nos chrétiens à comprendre leur foi. D'aider les chrétiens, les sensibiliser à vivre ce que notre foi nous demande de vivre, à les former à cela. Et automatiquement, quand on parle de la religion, quand on parle de la Bible, ça fait une ouverture naturelle vers celui qui ne croit pas comme moi, parce que c'est l'amour. Et l'amour, on ne demande pas, bon, tu es comment? Tu es chrétien ou tu es musulman? Non, l'amour, c'est ainsi. On ne regarde pas. Je termine en racontant une petite histoire. Un père de famille qui voit son enfant revenir de l'école et il lui demande, alors, dans votre école, il y a des juifs et des musulmans, il y a des ceci et cela. L'enfant dit, non, mon père, papa, il n'y a pas tout ça, il n'y a que des enfants. Voilà, c'est ça. Lui, il veut marquer la différence, mais l'enfant, non, il voit que des camarades. Enfin, il faut que nous arrivions à cela. Il faut que nous arrivions à nous retrouver, à causer ensemble. Quand l'heure de la prière sonne, chacun va de son côté. Il dit sa prière, il revient. Ça s'adresse au même Dieu qui nous appelle à nous aimer. C'est cela ce que j'appelle le comportement de la paix. Mais ce comportement, c'est pas seulement de venir s'arrêter, sensibiliser, de venir s'arrêter, prêcher, mais c'est aussi de le mettre concrètement dans notre vie de tous les jours.
Merci.
Pour ajouter ce que a dit le père. Par exemple, lors de ces rencontres, le fait que les jeunes découvrent les similitudes. Déjà, c'est quelque chose d'important. Exactement. Par exemple, tout à l'heure, le père JB disait que, à propos du pardon, que si quelqu'un vous fait du mal, répond par le bien. De choses comme ça, à chaque fois qu'il y a un verset dans la Bible, vous trouverez le même verset dans le Coran. Le Coran dit à ce propos, idfa billati hi ahsan. C'est-à-dire, répond au mal qu'on t'a fait par le meilleur, par le bien. Idfa billati hi ahsan. Il dit faisal lazi baynaka wa bayna adatuka annahu waliyyun hamim. Il dit cela permettra à ce que ton ennemi juré se transforme en ami. C'est vrai, l'islam dit que il faut pas regarder le mal se faire sans réagir. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsque tu vois le mal, fais tout pour l'empêcher ou pour le changer. S'il le faut par la main ou par la force, tu empêches le mal. Il dit, si tu ne peux pas, empêche-le par la parole, c'est-à-dire en prêchant ou en grondant, ou je ne sais pas moi, ou en, tout simplement en disant gentiment, en trouvant des mots doux pour empêcher ce mal. Il dit, si tu ne peux pas, cherche à l'empêcher par le cœur, c'est-à-dire par la prière. Il dit ça, c'est la plus faible de foi. Donc la foi, c'est vraiment d'empêcher le mal. La vraie foi, c'est de l'empêcher. on va tuer quelqu'un, on va faire cela, toi, tu trouveras le moyen, peu importe le moyen, vraiment d'empêcher ça. Donc, si c'est par la force, mais si c'est par la main, donc ça peut être par la force, puisque c'est la main, ça peut être par une signature. Vous voyez? Donc, c'est ce que ça veut dire. Ou bah, par la parole, ça peut être juste par non, arrête, ou tout simplement prêcher. Ou alors par le cœur, en priant. Pour que Dieu transforme le cœur de ce monstre, de ce monsieur qui est en train de perpétrer tel ou tel mal. Donc vraiment, les religions, en tout point de vue, se rejoignent, se retrouvent, surtout quand il s'agit des questions d'humanisme, des questions de foi.
Le contexte actuel, c'est que le Niger baigne aujourd'hui dans un environnement agité qui fait dissiper la quiétude au sein de nos communautés locales. Ces dernières n'ont pas pu s'aimer ou labourer leurs champs à cause, d'une part, de la situation sécuritaire. Quelle est votre contribution pour atténuer cette situation, Père Jean-Baptiste Cafando?
Oui, c'est vrai que beaucoup ont fui leur région. Et quand on entend ça, on pense que leur problème, c'est juste leur trouver à manger. Alors, le problème est plus crucial quand on quitte son village, parce que il y a non seulement à manger, mais il y a aussi l'habitation, il y a aussi les soins, et surtout la scolarisation. Donc, tous ces événements font reculer la quiétude dans un pays. Tout en une France de la population qui quitte, voilà, ça devient la famine assurée. Ça, c'est au niveau alimentaire, mais tout ce qui suit devient crucial. Alors, quelle action il faut faire? D'abord, il faut concrètement soutenir ceux qui ont quitté leur région. Il faut faire quelque chose, puisqu'ils doivent manger. Et leur bétail, je parle surtout en pensant à ceux du Gorwal, leur bétail ont été emportés, ils n'ont plus rien.
Dans la zone des trois frontières.
Voilà, dans la zone des trois frontières, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un certain nombre étaient venus ici à Niamey. On a fait ce qu'on pouvait pour qu'ils aient à manger. Ils sont allés, certains loger dans des familles, dans leur famille, mais des parents, mais c'est beaucoup. Hein. La famille passe de 3 personnes, de 5 personnes à 30 personnes, c'est pas possible. Et ensuite, vu la situation qui perdurait, ils ont voulu retourner chez eux parce qu'il y a l'école, il y a même leur travail et tout, impossible. Dans la région de Makalondi, c'est pareil, ils sont toujours dans Tilaberi, c'est aussi pareil. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue de quitter, de fuir pour se retrouver dans les villes comme Makalondi, Torodi, c'est la même situation. Alors, l'action à faire, c'est trouver à les loger, pour les soigner, assurer la scolarité de leurs enfants. Et ça, ce n'est pas facile. Il faut faire
appel. C'est un grand défi à ce niveau.
Défi, exactement.
Merci beaucoup, Cheikh Ibrahim. Quels sont aujourd'hui les défis à relever en ce moment par les leaders religieux pour contribuer à mettre fin à cette insécurité au Niger?
Comme le dit Père JB, il faut augmenter la solidarité. Il faut faire preuve d'une solidarité agissante envers ces gens-là. Vraiment, et il faut que les leaders religieux puissent faire en sorte que la communauté puisse se solidariser avec ceux qui sont atteints par cette calamité, dans la mesure où ça n'arrive pas qu'aux autres. Si ça arrive ailleurs, un jour ça peut venir aussi vers chez chacun d'entre nous. Donc c'est pourquoi vraiment il faut que les gens bougent, il faut que les gens s'organisent, il faut que les gens puissent assister ceux qui en ont besoin.
Dans le même cadre, est-ce que vous avez des recommandations particulières à faire à l'État ou aux populations dans le souci de contribuer à mettre fin à cette insécurité ou au terrorisme dont sont victimes des paisibles citoyens?
Oui, bien sûr. Pour nous, l'État doit instaurer un dialogue sincère, un dialogue franc avec les citoyens de tous bords pour pouvoir endiguer ce phénomène qui ne fait qu'aller crescendo. Il faut absolument qu'il y ait un débat national à ce sujet pour que la nation tout entière puisse être responsabilisée. On a vu tout récemment en Éthiopie, lorsque les rebelles tigréens ont menacé la capitale, à 200-300 km de la capitale, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier ministre Abiy Ahmed, ou comment il s'appelle, il a tout simplement mobilisé la nation. tout le monde a pris ses responsabilités, tout le monde s'est senti concerné. Et les rebelles ont été, ils ont endigué cette attaque contre la capitale. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la menace chez nous est telle qu'il est vraiment temps de créer ce sursaut national pour que chacun d'entre nous puisse se sentir concerné, non attendre que quelqu'un d'autre vienne nous sauver.
Il y a aussi les autres acteurs, c'est-à-dire les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les leaders politiques et acteurs de la société civile, toujours dans le cadre de la promotion de la paix et la lutte contre l'insécurité au Niger. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Ils ont la responsabilité de faire en sorte que cette nation reste en paix, que le conflit ne soit pas détourné, et que les extrémistes ne puissent pas gagner cette bataille, en mettant les citoyens les uns contre les autres. J'ai vu dans le nord du Wallam, où des villages voisins qui sont autrefois habités par des familles, la même famille, ces villages-là aujourd'hui en sont arrivés vraiment à une sorte de guerre qui ne dit pas son nom. Donc les extrémistes ont réussi, de ce point de vue, à mettre les citoyens les uns contre les autres. Par comment? Par exemple, en attaquant d'autres, en spoliant les biens d'autres villages, en préservant d'autres qui se montrent plus compréhensifs à leur égard. Donc, vous voyez, donc, ceux qui combattent ces extrémistes, ils combattent en même temps ces villages-là. De sorte qu'il y a des villageois qui sont en train de quitter leur localité. On a vu aussi la défaillance de l'État en termes de justice, en termes de gouvernance au niveau local, dans la mesure où ces extrémistes, quand ils viennent dans le village, ils trouvent forcément des litiges latents. Ça va de soi, peut-être c'est sur le foncier. Ils demandent, mais ils réunissent les villageois, les notabilités, en leur disant, dites-nous réellement, cette terre appartient à qui? Réellement. Ils vous disent, bon, ça appartient réellement aux parents d'un tel, mais un tel a soudoyé, ou un tel a fait ceci, cela, un tel a pris ça pour un temps et il veut la garder, etc. Et qu'est-ce que les extrémistes font? Ils tranchent tout de suite. C'est que le système judiciaire local n'a pas pu trancher en 30 ans. Et là, en 30 secondes, 30 minutes, ils tranchent. Quand ils tranchent, là, qu'est-ce que c'est? Là aussi, ils sont en train d'opposer les citoyens à l'État.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, le temps qui nous est accordé?
Ce qu'il faut faire, vraiment, c'est pourquoi je dis, cette guerre, cette situation touche tout le monde. Ça met en nu la responsabilité de tout un chacun. Il ne faut pas seulement dire leader religieux, chef traditionnel, non. Tout un chacun, mais eux en premier, doivent vraiment s'asseoir avec l'État pour impliquer toute la nation, car la nation est en danger. Vraiment, il est temps, si on ne se réunit pas, si on ne se met pas ensemble pour aller combattre tous de comme un seul homme, je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera.
Oui, Père Jean-Baptiste Kafando, vos attentes pour terminer, puisque nous sommes au terme.
Je joins à ce que Cheikh a dit, c'est la responsabilité de tout un chacun pour que la paix revienne. On a l'habitude de compter sur le maire pour nettoyer les rues, ceci. Non. Là, il faut que chacun sache que sa responsabilité est engagée, de quelque niveau que ce soit, niveau de responsabilité et niveau social et professionnel, pour que nous amenions tous la paix qu'il faut. Voilà ce que je peux dire pour compléter ce que je viens de dire.
Merci beaucoup. Fidèles auditeurs et téléspectateurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui portait sur la contribution des leaders religieux dans la lutte contre l'insécurité au Niger. Nous comprenons que ces leaders religieux, musulmans et chrétiens, qui ont répondu à nos questions sont tous contre les actes et comportements qui perturbent la sécurité et menacent la quiétude sociale. Ils ont tous lancé cet appel au vivre ensemble et au renforcement du dialogue intra- et interreligieux pour préserver la paix sociale dans le pays. Merci à vous, chers invités. C'était donc Cheikh Barham Aboubakar, leader musulman, président national du comité de dialogue inter- et intra-religieux, CEDIR, et du père Jean-Baptiste Kafando, leader chrétien, également membre de ce comité de dialogue inter- et intra-religieux, CEDIR. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je suis Michel Deji à la modération de ce forum, à la technique Amina Hassan. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.